Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Léa Sabourin, Amélie Perrault, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Clément Daté.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Comme tous les vendredis, c'est un débat autour d'un sujet d'actualité économique qui clôture notre semaine. Débat qui implique aujourd'hui une expédition dans le dédale de la finance verte. Si le climat était une banque, il aurait déjà été sauvé. Voilà l'un des slogans qui scandait les manifestations de lycéens mobilisés ces dernières semaines pour la planète. Et si justement la défense de l'environnement passait par les banques ? C'est là l'ambition de la finance verte qui propose depuis plusieurs années des actions et des obligations orientées vers la transition énergétique. Des investissements verts qui ne cessent de croître, 1000 milliards de dollars d'émissions sont espérés en 2020, mais qui ne représentent encore qu'une goutte d'eau dans l'océan de la finance mondiale. Alors comment inciter les banques, les entreprises et les particuliers à se tourner vers les investissements durables ? Comment éviter le greenwashing ? Et peut-on s'accorder sur la définition d'un placement vert ? Voilà les questions qui vont nous occuper avec nos trois invités. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Antoine Mismer nous fera découvrir la loi de l'entropie et le problème économique de Nicolas Georgescu-Rogan, le père de la décroissance. Trois invités autour de la table donc. Bonjour Benoît Leguet.
Bonjour.
Vous êtes directeur général du think tank I4C, l'Institut de l'économie pour le climat, fondé par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement. Et vous êtes également membre du Haut Conseil pour le climat, lancé par Emmanuel Macron il y a quelques mois. À vos côtés, Hélène Turgeman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, maître de conférence à l'Université Paris 13 et chercheur à l'Institut francilien Recherche Innovation Société, l'IFRIS, et au laboratoire CEPN. Et enfin, Jean-Guillaume Péladan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la stratégie environnement du fonds d'investissement Sycomore AM et l'auteur de cet ouvrage « Sur quelle planète vont grandir mes enfants ? Écologie, clé du futur » paru aux éditions Ovadia. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
La France est leader sur cette question de la finance verte. C'est un élément clé pour faire bouger concrètement les choses sur le climat. De la transparence d'abord, pour amener toutes les banques, toutes les institutions financières à dire pour qui elles investissent. Où elle place l'argent des particuliers ? Parce que si vous placez l'argent sur des centrales à charbon, ça risque de pas être très rentable.
Oui, ça, on
c'est
sait pas.
Risque.
On sait toujours pas
non,
où va l'argent en 2017.
On va aller vers plus de transparence, plus d'informations, et des particuliers, et de la part des banques et des institutions financières. Deuxième chose, l'État français s'engage. Nous avons été le premier État au monde à émettre des obligations du Trésor qui sont des obligations vertes. 8 milliards d'euros pour financer uniquement des projets verts. Et nous venons d'émettre pour près de 10 milliards d'euros de nouvelles obligations, là encore pour financer la transition écologique.
Voilà, le ministre de l'économie Bruno Le Maire chez nos confrères de France Inter, c'était le 12 décembre 2017. Alors la France a certes été l'un des pionniers de la finance verte mondiale, Benoît Leguet, même s'il reste encore beaucoup à faire en termes de transparence justement.
Oui, alors la transparence, finalement, quand on parle de transparence, de quoi parle-t-on ? Il y a plusieurs degrés de transparence, mais effectivement, du point de vue de l'épargnant, c'est savoir dans quel monde il investit, pour être très simple, enfin, quelle est la couleur du monde dans lequel il investit. Et puis quand on parle de transparence également, c'est pour les institutions financières, disons, le dialogue entre les institutions financières et ce que je vais appeler la sphère économique, que les uns et les autres puissent dialoguer et notamment comprendre où sont les risques disons, comment sont appréhendés les risques liés à la transition ou à l'absence de transition ou au climat, etc.
En 2017, les Français avaient déposé 104 milliards d'euros sur le livret développement durable et solidaire, selon le rapport annuel de l'Observatoire de l'épargne réglementée. Sauf qu'il est très difficile de savoir où cet argent est allé et s'il a réellement financé des projets verts. Bruno Le Maire a lui-même convenu qu'il y avait eu tromperie sur la marchandise, Benoît Leguet.
Effectivement, et puis c'est vrai pour, en fait, tout support d'investissement, c'est très difficile de comprendre ce qu'il y a derrière. Incidemment, j'aimerais connaître des épargnants qui demandent à leur agent d'assurance ou à leur banquier, décrivez-moi qualitativement le monde dans lequel je suis en train d'investir. Il y a aussi une éducation, disons, de l'épargnant à faire. Et pas simplement, disons, enfin, on peut toujours jeter l'opprobre sur le secteur financier, il faut le faire. Mais il y a également une question d'éducation populaire, que les épargnants ne raisonnent pas simplement en termes de rendement risque un peu bête et méchant à court terme, mais se préoccupent de la qualité de ce dans quoi ils investissent.
Sur la transparence, Jean-Guillaume Péladan, une proposition de loi visant justement à détourner l'épargne des Français des investissements dans les combustibles fossiles a été adoptée à l'Assemblée au début du mois. Est-ce que c'est un texte qui constitue une avancée significative pour vous ?
Oui, bien sûr, il y a bien plus. Enfin, c'est une réalité que la France a une position de pionnière, je dirais. On peut en être fier, notamment, là on a beaucoup plus de recul sur l'article 173 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte qui a été votée en 2015, décret d'application dans la foulée à la fin de l'année, qui a instauré justement une obligation de transparence pour tous les fonds, qui soient des gérants d'actifs comme Sycomore ou qui soient des investisseurs institutionnels, donc tous les gérants de fonds de plus de 500 millions d'euros. Donc voilà, c'est on a tous les gros dans cette obligation qui est sur deux sujets. Premièrement, d'une transparence sur les critères extra-financiers qu'on appelle dans le jargon ESG, environnement, social et gouvernance. Et d'autre part, un volet très important et lui très nouveau sur la contribution à la transition écologique et énergétique et sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc cette obligation est entrée en vigueur. Aujourd'hui, l'été dernier, l'autorité des marchés financiers a écrit à toutes les personnes concernées pour qu'elles leur répondent en disant où était cette publication qui est obligatoire à partir du 30 juin de N+1, de l'année N+1. Et on a vraiment eu une dynamique avec 2 ans de recul aujourd'hui sur l'impact de cet article de loi qui fait que des acteurs bougent. Et Bruno Le Maire a entièrement raison en disant la transparence est le premier levier pour répondre à des questions très basiques sur ce sujet.
Et en même temps, ce que l'on constate, Hélène Torgemann, c'est que selon un rapport d'Oxfam, les grandes banques françaises continuent à consacrer 70% de leur financement énergétique aux énergies fossiles.
Oui, absolument. Enfin, c'est un rapport récent de novembre 2018 sur 6 grandes banques françaises qui montre que moins de à peu près 20% de leurs crédits vont aux énergies renouvelables et donc les trois quarts aux énergies fossiles.
Ce qui montre l'ampleur des progrès qu'il reste à faire.
Absolument, mais ceci dit, je suis d'accord avec Monsieur Péladan sur l'article 173 qui est un vrai progrès et d'ailleurs le programme des Nations Unies pour l'environnement montre en exemple un peu la loi française de ce point de vue-là.
Alors quels sont maintenant les différents outils de la finance verte ? Il faut parler d'abord des obligations vertes qui servent donc à financer des projets contribuant à la transition écologique. Et ce qu'on a constaté, Benoît Le Guel, c'est que ces obligations ont augmenté de façon exponentielle depuis 2013 environ.
Oui, en tout cas les obligations labellisées, c'est-à-dire celles qui ont fait reconnaître leur caractère vert. Mais ce qui du reste pose tout un tas de questions, qu'est-ce qui est vert, in fine ? Là c'est la question, j'allais dire, à quelques euros. Et pour vous inciter à réfléchir à cette question, donc j'entendais le ministre qui disait que la France avait été le premier État à émettre une obligation souveraine verte. En fait, il n'a pas tout à fait raison, c'était le deuxième État, et le premier État, ça a été la Pologne. Alors, je vous vois sourire, voilà, évidemment, la Pologne, on connaît un mix électrique, en tout cas extrêmement charbonné, et donc ça pose question, finalement, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que la Pologne a mis dans son obligation souveraine verte, et finalement, on va retrouver cette question sur toutes les émissions obligatoires, qu'elles soient souveraines ou de la part d'émetteurs privés. Finalement, qu'appelle-t-on qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui n'est pas vert ?
On peut citer aussi la Chine, qui est le premier émetteur d'obligations vertes, alors peut-être pas labellisé, mais ça lui sert à construire des centrales à charbon dites propres. Alors la question c'est, est-ce qu'il s'agit de diminuer la nocivité d'une technologie polluante ou de la remplacer ? Tout le monde n'est pas d'accord sur ce point, Jean-Guillaume Péladan.
Oui, tout à fait. La transparence fonctionnera si elle va jusqu'à la manière dont on qualifie le vert. Et je vais vous donner un exemple très simple. Si vous avez un émetteur d'actions, ça peut être des obligations, ça peut être des actions, peu importe, qui va effectivement, dont le métier c'est de construire des champs éoliens, mais si ça concerne 20% de son activité, 80% c'est pour construire des centrales à charbon, alors, en tout cas de notre point de vue, mais je pense que vous allez être d'accord, on peut pas qualifier cet émetteur de vert parce qu'il a du très vert pour 20% et du très marron pour 80%. Donc ce qui est nécessaire, c'est effectivement la transparence sur comment on définit. Et une des réponses à ça est l'utilisation des labels. Donc parmi les innovations françaises, il y a le label Tech, transition écologique et énergétique pour le climat, qui date d'il y a 3 ans, et qui garantit à l'épargnant des placements qui sont entièrement nucléaire free, enfin sans nucléaire et sans carburant fossile, et puis qui garantit également un contenu d'activité verte selon un critère de liste, une nomenclature. Ce sont des avancées, et le label aussi incite à la transparence sur la méthodologie utilisée. C'est aussi un des chevaux de bataille du Forum de l'investissement responsable dont nous faisons partie. Et voilà, aujourd'hui on peut dire qu'on est quand même globalement très loin d'une transparence sur tous ces aspects-là.
Il manque, Lenderman, un classement des activités selon leur performance environnementale. Vous parliez, Jean-Guillaume Pelladan, du label Tech. Il faudrait peut-être aussi harmoniser les différents labels au niveau mondial. C'est l'un des enjeux.
Pour l'instant, il y a effectivement plusieurs labels, mais tous ont en commun un premier problème, qui est le fait qu'ils se concentrent sur les procédures mises en œuvre par les firmes pour suivre leur performance en termes de d'émissions de gaz à effet de serre, d'effets sur la biodiversité, etc. Mais par contre, ils ne suivent absolument pas les effets réels de leur action. Donc ils peuvent dire nous avons mis en place des procédures pour suivre nos pollutions. Mais en fait, on ne sait pas ce qui pollue et ils ne savent pas eux-mêmes. Donc là, il y a un vrai premier problème qui est qu'il faudrait regarder les actes effectifs et pas seulement les mots.
Ce qui pose la question de comment, justement, on arrive à définir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas.
Et il y a un deuxième problème qui est le fait que la plupart des labels se concentrent sur ce que certains appellent la matérialité. C'est-à-dire le fait que une activité va être jugée sale si elle a un impact en fait sur le fond, sur la valeur actionnariale à long terme. C'est-à-dire si elle menace la valeur financière des firmes à long terme. Si elle ne menace pas la valeur financière des firmes à long terme, elle ne sera pas jugée sale. Et là, c'est quand même une certaine forme d'hypocrisie. Bon, je pourrais vous donner des exemples si on y revient.
Je vais me tourner vers Jean-Guillaume Pelladan. La question qui se pose, c'est comment vous déterminez quelles sociétés justement sont éligibles au fonds d'investissement Sycomore, dont vous êtes le directeur.
Alors, excellente question pratique. En fait, le fonds a été lancé en 2015, juste avant la COP21. Nous souhaitions adopter un critère justement qui soit robuste. Et nous avons fait le constat que les critères disponibles sur le marché n'étaient absolument pas satisfaisants pour répondre à la question simple, est-ce que cet actif est vert ou pas? Et donc on a décidé de bâtir notre propre métrique, qui est une métrique basée sur des analyses de cycle de vie, qui est le standard d'évaluation environnementale depuis des décennies, et qui nous a permis d'identifier le marron dont je parlais, et toutes les nuances de vert, en passant par le gris, ce qui est un peu au milieu, ce qui est un peu neutre, et effectivement toutes les nuances de marron sur une échelle de moins 100% à plus 100%.
Qu'est-ce que cela veut dire, observer les cycles de vie?
C'est intégrer, je vais vous prendre un exemple, la voiture. Quand on regarde l'empreinte carbone d'un fabricant automobile, son empreinte carbone en scope 1 et 2, ce qui veut dire le périmètre juste de l'entreprise, ça va être celle de ses bâtiments, où il assemble les voitures. Lorsque vous regardez l'analyse de cycle de vie, vous prenez en compte toutes les étapes de la naissance, du berceau à la tombe, du produit. Et donc, on va prendre aussi toute la chaîne de fournisseurs qui fournit les pièces pour assembler les voitures. Et on va prendre l'impact lorsqu'on roule et puis la fin de vie lorsque la voiture va à la casse. Il se trouve que pour la voiture, on a à peu près 80% de l'impact en gaz à effet de serre, du CO2, pendant la phase de roulage. Et si on regarde que celle qui est générée par l'entité elle-même qui assemble, c'est 3%.
Benoît Leguet, vous vouliez réagir?
Oui, sûr. Pour que vous compreniez la difficulté, disons, à laquelle Jean-Guillaume et ses confrères font face, pour déterminer en fait si, on va dire, un actif, pour simplifier, on va dire déjà un actif physique, donc une infrastructure, quelque chose de tangible, est-ce que c'est vert ou est-ce que c'est pas vert? Je vais vous faire une réponse d'ingénieur, ça dépend. Et ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend du contexte, donc ça dépend du contexte national. Une centrale au gaz, par exemple, c'est vert ou c'est pas vert? Ça dépend du système électrique sur lequel elle vient se brancher. Si elle vient remplacer des sources peu carbonées, c'est pas vert. Par contre, si ça vient remplacer du charbon, c'est vert. Donc déjà, ça dépend. Et puis ensuite, tout dépend de la finalité. Pour vous donner un exemple, un bateau qui fonctionne au fioul lourd, c'est pas propre. c'est pas vert. Oui, mais si ce même bateau sert à mettre des éoliennes offshore, est-ce que ça devient vert ou pas vert? Donc en fait, il y a une question de dans quel contexte ça s'inscrit, dans quelle trajectoire finalement s'inscrit l'actif. Et là, on n'a parlé que d'actifs physiques. Donc quand on remonte sur de l'actif papier, c'est-à-dire finalement les entreprises qui vont avoir tous ces actifs, là la question devient horriblement complexe. C'est pas parce que c'est complexe qu'il faut laisser le truc de côté et se dire bon, on n'en parle pas quoi. Au contraire.
Ce qu'on constate, c'est qu'il est plus facile d'évaluer par exemple l'impact bénéfique d'une éolienne que d'un projet de rénovation urbaine. Ça pose un certain nombre de questions, Jean-Guillaume Pelladan.
Oui, et alors justement pour terminer cette histoire centrale de capter le degré vert, il est très important donc de raisonner en analyse de cycle de vie. Donc en regardant l'ensemble des impacts tout au long de la vie et puis de les ramener à l'unité fonctionnelle qui va être quand je produis l'électricité. Donc là, il faut, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Benoît, il faut regarder la finalité. À quoi ça sert à produire de l'énergie? Puis après, lorsque par exemple on prend un bateau qui installe des éoliennes, nous considérons que sa finalité, c'est de servir la chaîne de valeur éolienne qui permet in fine. Et si on n'a pas ce bateau, on ne peut pas installer l'éolienne. Et donc, on a construit une métrique qui s'appelle la Net Environmental Contribution, qui est ce fameux chiffre qui peut se calculer sur n'importe quelle activité économique, de moins 100% à plus 100%. Et c'est ce qui est utilisé pour le fonds vert dont on a parlé, qui s'appelle Sycomore Ecosolution, et qui nous a permis aussi d'obtenir le label tech, et on a été le premier à l'obtenir en France.
Plus largement, est-ce que le problème, Benoît Le Guest, n'est pas que l'empreinte et l'intensité carbone sont des indicateurs qui sont devenus insuffisants? Et est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui apparaissent?
Exactement, enfin, c'est pas quelque chose de suffisant. C'est-à-dire, je le dis toujours, l'accord de Paris ne nous incite pas à réduire les émissions. Ça nous demande de ramener les émissions à zéro, en net. Donc le problème n'est pas tout à fait le même. Il ne faut pas simplement réduire les émissions. Donc mesurer l'empreinte carbone d'un actif, ok, ça a une valeur en soi, mais la question c'est finalement comment ce qui est derrière cet actif va pouvoir dans le temps être ramené à zéro émission nette. Si j'achète aujourd'hui, par exemple, des actions d'une société pétrolière, la question que je peux me poser en tant qu'investisseur, c'est, ok, aujourd'hui, elle est manifestement pas sur une trajectoire de 2 degrés, mais est-ce qu'elle peut essayer de s'y mettre? Comment elle va déformer son activité au fur et à mesure du temps? Et est-ce qu'il y a des chances que finalement, elle soit alignée avec un monde, entre guillemets, de 2 degrés?
Ce qui pose effectivement la question de la rentabilité, ce qu'on reproche souvent aux obligations vertes, Hélène Torgeman, c'est d'être moins rentable et plus risqué que les obligations classiques.
Je voulais juste rebondir d'abord sur
ce que dit
M. Le Guest, au niveau de la focalisation exclusive sur l'objectif des 2 degrés ou 1,5 degré, on ne regarde que les émissions de gaz à effet de serre en oubliant absolument tous les autres effets environnementaux qui sont absolument énormes par ailleurs sur la biodiversité, les pollutions, l'état de la mer, etc. Et donc là, on arrive maintenant à proposer des technologies soi-disant neutres en carbone. Mais en fait, pour être neutre en carbone, on va faire des choses terribles à la Terre en enfouissant du carbone dans la croûte terrestre pour la faire exploser, ce qu'on appelle la capture et le stockage du carbone, par exemple. Je pense que cette focalisation exclusive sur le... Effectivement, il y a une urgence climatique, mais en fait, on a une urgence environnementale et pas que climatique. Et il me semble qu'il faudra absolument ouvrir un peu notre esprit et pas fonctionner que là-dessus.
Et sur cette question de la rentabilité et du risque que peuvent représenter les obligations vertes, il y a beaucoup de débats autour de cette question.
Oui, c'est sûr que les investisseurs, a priori, recherchent un arbitrage rendement-risque satisfaisant.
Avec cette question du court ou long terme aussi.
Le plus de rendement possible pour le moins de risque possible. Plus c'est à long terme, plus le risque est grand puisque c'est difficile à évaluer. Et les investisseurs en général ont tendance à être peureux dès qu'il s'agit de la valeur de leur capital. Et du coup, ils veulent le moins de risque possible. Et quand on leur propose un actif bien noté, AAA dans le jargon des agences de notation, c'est-à-dire le moins risqué possible avec un rendement à 8%, alors qu'en général c'est à 2 ou 3%, ils se précipitent tous. Et sans doute que les obligations vertes telles qu'elles sont... arrangées et construites pour l'instant, ne vont pas fournir ce genre d'arbitrage rendement-risque. Donc, il va vraisemblablement falloir peut-être des garanties étatiques ou de la BCE ou des montages publics-privés qui permettent de rassurer les investisseurs pour qu'ils investissent dans ces actifs-là.
Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, Jean-Guillaume Pelladan, justement, pour que ces actifs soient plus rentables et attirent davantage les investisseurs?
Alors, Je voudrais compléter par la transparence sur les mesures, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Len Torgeman. Si l'on n'est que carbone, on va faire des impasses, et on va dire le nucléaire c'est super, on va dire le diesel c'est mieux que l'essence, parce que le diesel à motorisation identique va consommer entre 15 et 20% de moins de... va émettre 15 à 20% de moins de CO2 que l'essence, ou on va dire le plastique c'est fantastique, alors qu'on est en train de constituer le 7e continent flottant à la surface de la Terre. Et donc, oui, les approches multicritères sont essentielles. Lorsqu'on agrège tout ça, on voit par exemple dans notre métrique, l'ANEC, le climat pèse souvent entre 25% et 50% des enjeux, parce que c'est effectivement un enjeu systémique majeur, mais ce n'est pas le seul. La biodiversité, qui est notre assurance vie et celle des générations futures, est essentielle. Et voilà, et chacun des sujets, il y a d'autres externalités, la plus connue étant celle du diesel, qui produit beaucoup de NOx et de particules, donc là, on a un enjeu de qualité de l'air. Donc, ces métriques doivent être transparentes sur ce qu'elles mesurent en scope, y compris sur les aspects du capital naturel qu'elle couvre. Et sur la rentabilité, ben écoutez, moi je répondrai l'inverse. Aujourd'hui, le fonds dont je vous parlais, que je gère, ben, a une bonne rentabilité. Je vous demande, est-ce que si on a une recherche purement financière, ce qui est le cas de la grande majorité des acteurs et de nos clients, est-ce que vous avez envie d'exposer votre argent à des entreprises qui sont décalées avec la transition écologique et énergétique, avec des entreprises qui produisent beaucoup d'énergie carbonée, avec des entreprises qui vont faire de la viande avec une empreinte écologique énorme, pas seulement en CO2, ou avec de l'avion, qui aujourd'hui est le transport le plus polluant par kilomètre passager ou par tonne kilomètre. Quand on fait du fret, c'est encore pire par rapport aux autres modes de transport. Et donc, ils sont exposés, ces business vont devenir de plus en plus fragiles au fur et à mesure que la transition, qui est en marche depuis très longtemps, avance.
Et donc, on a un intérêt.
Et aujourd'hui, en tout cas, notre observation, c'est que des mesures comme l'ANEC permettent de mesurer le fameux risque de transition et qu'on observe des rendements meilleurs, alors pas sur une période d'un an, mais on a récemment publié lundi au forum, au risque forum de l'Institut Louis Bachelier, un article qu'on a écrit dessus qui montre que à partir de 3 ans et 5 ans, on a une matérialité du risque de transition face à la transition écologique énergétique.
Benoît Le Guin.
Oui, alors, sur comment rendre ces investissements finalement verts plus attractifs, donc comme l'a souligné Jean-Guillaume, il y a d'abord un aspect prise en compte du risque, risque que je qualifierais de transition, c'est-à-dire est-ce que d'une part est-ce qu'il faut continuer à investir dans du fossile si l'économie part plutôt vers du pas fossile, et puis il y a l'autre risque qui est extrêmement sous-estimé, c'est un euphémisme par les financiers, c'est le risque climat. C'est-à-dire finalement l'impact physique du changement climatique sur la valeur des actifs. Un ordre de grandeur que les gens n'ont en général pas en tête, c'est ce qui nous sépare de l'époque des mammouths, c'est 5 degrés en moyenne au niveau mondial, et c'était il y a 20 000 ans. Et là, on est en train de dire joyeusement qu'on va faire plus 2, plus 3 degrés en 100 ans, et si les émissions ne sont pas ramenées à net zéro, enfin j'ai un focus très climat, désolé, mais on va faire plus 5 degrés en 200 ans. Donc plus 5 degrés en 200 ans, et plus 5 degrés en 20 000 ans, on va 100 fois plus vite que le rythme naturel.
Et comment ça aura un impact sur les actifs?
Bah, il y aura peut-être un petit impact quand même, c'est-à-dire que l'économie ne sera pas tout à fait la même à plus 5 degrés en moyenne au niveau mondial que ce qu'elle est aujourd'hui. Ça peut impacter l'agriculture, accessoirement, ça peut impacter les transports, ça peut impacter notre approvisionnement en énergie, et finalement remettre en cause l'ensemble de l'économie. Donc ça, c'est le premier volet, prise en compte du risque. Et à mon avis, le risque climat, enfin le risque physique, est absolument pas pris en compte ou très très mal par les institutions financières aujourd'hui. Pas à la magnitude nécessaire. Le deuxième volet, faut pas l'oublier, il y a un aspect rendement, pour revenir sur ce que disait Hélène. Et en fait, il y a des choses qui sont faciles à mettre en œuvre, entre guillemets, pour rendre un certain nombre d'actifs plus intéressants. Imaginons par exemple qu'il nous vienne l'idée saugrenue de mettre en place un prix du carbone, une taxe carbone ou équivalent. Ça rend les actifs verts, entre guillemets, plus sympathiques, en tout cas les actifs bas carbone, pour rester là-dessus. Plus sympathique, entre guillemets, pour un investisseur que des actifs très carbonés. Donc là, on peut modifier les préférences des investisseurs parce qu'en fait, on va modifier également les préférences des agents économiques. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que la sphère financière qui peut jouer. La sphère financière n'est pas neutre, mais il y a également la sphère économique qu'on peut modifier. Et si on la modifie, normalement, on devrait aussi modifier les comportements des acteurs financiers.
Et puis, il y a aussi des mécanismes financiers particulièrement complexes, comme la titrisation, qui avait été pointée du doigt dans la crise de 2008, qui, pour certains, peut constituer un atout pour la finance verte, Jean-Guillaume Péladin.
Pas à mon sens.
Non.
Pour être très clair, quand on parle de transparence, on doit savoir ce qu'on finance. Et c'est pas un hasard si dans le label tech, vous n'avez pas de produits dérivés. Parce qu'on doit avoir un accès très clair à l'actif qui est effectivement financé. Et dès que vous parlez de produits complexes, vous perdez ce lien. Donc non, la finance verte, c'est la finance aussi une forme très très simple, très rustique. La transparence, ça passe par là. Et là-dessus, la transparence est un ennemi. Et là, il y a une lutte d'influence qui est en cours.
Un pays comme l'Inde, par exemple, est un pays qui, selon les échos, s'intéresserait de près précisément à la titrisation qui offrerait des avantages justement pour poursuivre son vaste programme de développement d'énergie renouvelable. Hélène Torgeman, vous partagez le point de vue de Jean-Guillaume Péladin?
Tout à fait. Mais la titrisation est présentée aujourd'hui comme une solution pour financer des petits projets. Parce que là, tout ce dont on parle de grandes firmes, de gros projets très chers, et toutes les petites firmes et les petits projets n'ont pas accès à ces outils, aux index, aux indices boursiers, aux obligations vertes. Et donc, de faire des paniers, titriser des paniers de créances de petits projets pour les financer, ça semble pour certains une solution. Mais je pense que c'est pas du tout une solution pour les raisons que Jean-Guillaume a dites, c'est-à-dire ce sont des outils qui introduisent du risque systémique dans la sphère financière et qui sont absolument pas transparents. Et on a vu la crise des subprimes a été la titrisation a été un des moteurs, un des facteurs de la crise des subprimes. Donc,
On disait que la France avait été pionnière sur la finance verte. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'entreprises, mais aussi de pays s'y mettent. Benoît Le Guay, les sous-coupes verts, par exemple, connaissent un succès croissant. Ce sont des obligations qui sont compatibles avec la loi islamique.
Oui, tout à fait. Après, chaque pays peut mettre ça à sa sauce. Alors, pour reprendre un petit peu de sémantique... J'aime pas trop le terme finance verte, parce qu'en fait le sujet c'est pas tellement d'avoir un compartiment finance verte qui va grossir, il faut faire plus de vert, mais également moins de marron en même temps. Donc le vrai enjeu c'est de verdir la finance, tout en restant dans un cadre qui permet à la finance d'opérer, enfin en réduisant les risques, etc. Enfin il s'agit pas de créer des nouveaux risques en rajoutant du vert dedans. Donc si la loi islamique considère qu'il faut faire des soukouks, bah très bien, faisons des soukouks et faisons en sorte qu'ils soient verts. C'est ça le vrai sujet. Pour moi. Donc, j'entends bien ce finance verte, mais encore une fois, la question c'est comment on intègre le vert dans tous les segments de la finance. On a parlé des investisseurs, on a parlé des banques, les superviseurs, les autorités de marché, etc. Enfin, il y a du vert à tous les étages.
On va voir dans un instant comment on peut davantage inciter les entreprises, mais aussi les épargnants, à investir dans cette finance qu'il s'agit de verdir.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. saccadée, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché.
Rendez-nous la lumière de Dominique A sur France Culture, de Entendez-vous l'écho. Benoît Leguet, Hélène Torgeman et Jean-Guillaume Péladan sont toujours avec nous pour parler des espoirs et des limites de la finance verte. Alors comment réussir à attirer l'épargne des particuliers ? Ce que l'on constate, c'est qu'il y a un vrai intérêt chez les Français. Si l'on en croit le sondage IFOP qui a été réalisé en septembre, 6 Français sur 10 déclarent accorder une place importante ou très importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement. Et pourtant, ces placements sont encore assez limités, Jean-Guillaume Péladan.
Malheureusement, mais la bonne nouvelle, moi je regarde plutôt le verre à moitié plein. Aujourd'hui, il y a ce label tech qui est unique en Europe. Il y a un autre label autrichien qui s'appelle Umweltzeichen, mais qui se contente d'exclure le nucléaire et le charbon et qui ne raisonne pas en contenu vert, mais juste à exclure le marron, ce qui est déjà quelque chose. Hein, mais donc ce label existe, il est très exigeant. Mais ça en fait sa qualité. Et vous parliez des types de labellisation tout à l'heure, Hélène. C'est vrai qu'il y a des labels purement de process, comme le label ISR, qui a un énorme mérite, ISR pour investissement socialement responsable, qui garantit qu'il y a au moins un filtre de l'univers qui est fait avec au moins 20% d'exclus sur des critères extra-financiers. Donc ça, c'est une première garantie. Maintenant, le label tech va beaucoup plus loin. Il va vous garantir qu'il n'y a pas telle activité. Je parlais du nucléaire, je parle du charbon, du gaz et du pétrole qui sont exclus et qui va donc focaliser sur une liste d'activités qui sont résumées sur cette page hein, dans un document public sur le site du ministère de l'écologie, totalement transparent. Et donc là, on a quelque chose. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on va approcher des 30 fonds labellisés en France. Et ça représente 5 milliards pour une initiative qui n'existait pas il y a 3 ans. Donc c'est moins que le label ISR, mais qui n'est pas du tout avec le même. Mais on a déjà sur une progression.
Et en même temps, vous parliez tout à l'heure, Benoît Leguet, de pédagogie. Ce qu'on entend depuis le début de cette émission, c'est que les différents critères, les différents labels enregistrent un certain nombre de critères extrêmement complexes. On a d'autant plus besoin de faire cette pédagogie-là.
Oui, alors la pédagogie sur les labels, certainement. Enfin, les labels ne sont pas connus du grand public. Mais même au-delà des labels, enfin, il y a la question du label, mais finalement, le label ne fait que récompenser un processus, une action. Disons, ça permet de s'assurer que on n'achète pas n'importe quoi entre guillemets. Mmh. Et pour moi, ce qu'il faut faire, c'est encore l'étape d'après, c'est-à-dire finalement amener les épargnants, c'est-à-dire les Français, pour faire simple, à se poser les bonnes questions et à poser les bonnes questions à leurs intermédiaires financiers. Mmh. Chose qu'aujourd'hui, ils font très peu. Si vous avez un support d'investissement, que ce soit un plan d'épargne retraite, un PE, un je sais pas quoi, il y a très peu d'épargnants qui posent des questions à leur banquier ou leur assureur favori. C'est peut-être quelque chose qu'on peut changer.
Et dans la loi Pacte, désormais, il y aura une obligation de proposer au moins un investissement vert à son client ?
Au moins proposer, donc c'est déjà un premier pas, et peut-être que ça amènera des questions justement de la part des épargnants.
Hélène Dorgeman.
Mais pour l'instant, les grands labels qui existent sur le marché ne sont pas très verts, quoi. Ils permettent que EDF puisse émettre des obligations vertes, que Engie puisse émettre des obligations vertes, que la ville de Mexico puisse lever 6 milliards de dollars pour construire soi-disant un aéroport vert, avec comme objectif de tripler le volume du trafic aérien dans les 30 ans qui viennent. Donc il y a quand même une vraie question sur la labellisation qui est pour l'instant, à mon sens, pas du tout assez rigoureuse. Engie, c'est un cas d'école, quoi. Avec leur obligation verte, ils ont fini de financer un barrage catastrophique en Amazonie qui a fait des centaines de milliers de déplacés, des catastrophes écologiques, etc. Tout ça sous le couvert vert. Donc il y a quand même un souci.
On a encore du mal à empêcher que les entreprises fassent du greenwashing, de l'éco-blanchiment en bon français, Benoît Leguet.
Ça, du greenwashing, il y en aura toujours. Enfin, dès que vous mettez en place des normes, un label, il y a toujours des personnes qui le contournent. En tout cas, qui contournent, à défaut de contourner la lettre, qui contournent l'esprit. Ça, c'est assez difficile à empêcher dans tous les cas. Effectivement, alors après, tout dépend de quel label on parle. Là, je pense qu'Hélène faisait référence au label sur les obligations vertes, où il y a plusieurs standards. Effectivement, c'est assez difficile de comprendre ce qu'il y a derrière. A contrario, si on prend l'exemple du label tech que donnait Jean-Guillaume, là, on est sur quelque chose qui est, j'allais dire, complètement transparent, public, en français en plus. Mmh. Enfin, disons, l'épargnant standard peut comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà.
Donc là encore, il y a un travail à faire pour qu'on sache quel label est peut-être plus fiable qu'un autre, Jean-Guillaume Péladan ?
C'est exactement ça, et vous avez choisi les bons exemples. Typiquement, Engie, EDF sont exclus de label tech. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas en avoir des actions dans le label tech, vous pouvez en avoir dans le label ISR. Donc, c'est une bonne illustration. Et dès que vous avez un émetteur d'obligations vertes, se pose la question, est-ce que l'émetteur lui-même est vert ? Parce que je vous rappelle que l'obligation verte, pour l'instant, le périmètre concerné, c'est uniquement ce qui est financé. Et lorsqu'on a une entreprise marron qui émet un green bond, on peut se poser la question et il y a un problème, effectivement.
Et alors, quel devrait être maintenant le rôle des institutions dans la promotion de la finance verte? Lors du grand débat réunissant lundi à l'Élysée une soixantaine d'intellectuels, débat qui est à retrouver en intégralité sur franceculture.fr, Emmanuel Macron a réitéré sa volonté de créer une banque européenne pour le climat.
Je pense que l'idée de cette banque du climat, au fond, c'est d'appuyer sur deux instruments qu'on a. On a la BEI, la Banque européenne d'investissement, qui doit être beaucoup plus mobilisée sur ce type d'investissement. Et donc ça, c'est un choix de là où on met le capital public pour orienter ensuite des choix privés. Et puis, on a un vrai débat à avoir, qui est qu'est-ce qu'on met comme objectif au sein de la Banque centrale ? Et donc, comment, dans les critères même du système bancaire, on décide d'orienter justement les différents modèles, la bonne allocation du capital et des financements ? Est-ce qu'on veut favoriser certains types de financement en considérant qu'ils sont préférables? C'est un débat là qu'il faut avoir. Ensuite, au niveau européen, ce qui nous permettra d'accélérer, c'est de monter le prix du carbone. C'est d'accepter qu'on va vers un modèle où l'investissement productif doit prendre en compte ses impacts sur le climat. Et donc, quand on investit dans quelque chose qui produit du CO2, on doit être taxé beaucoup plus qu'on ne l'est aujourd'hui. Alors, il y a énormément là d'intérêts constitués qui sont contre. Il n'y a pas de consensus européen sur ce point, il ne faut pas se tromper. Mais je pense que c'est un combat qu'on doit mener et qu'on doit mener là aussi à ciel ouvert si on veut pouvoir le gagner, parce que c'est un vrai levier de transformation et il doit s'accompagner d'une taxe aux frontières sur le CO2.
Voilà, le chef de l'État répondait au climatologue Jean Jouzel, qui est à l'origine, avec l'économiste Pierre Larouturou, du projet de banque européenne pour le climat. Alors, que permettrait cette banque pour le climat que ne permet pas à l'heure actuelle la banque européenne d'investissement, Benoît Legui?
Oui, alors, merci de me poser cette question. Enfin, pour aller vraiment à l'essentiel, une banque européenne du climat comme institution séparée à créer ex nihilo, je n'y crois pas du tout. Parce qu'en fait, encore une fois, l'objectif, c'est pas tellement de faire grossir la partie finance verte, c'est de verdir la finance. Donc si on crée une banque du climat, quelles que soient ses attributions, et qu'en parallèle, on ne change rien à la BCE, la BEI, on passe à côté du problème. C'est-à-dire, on crée je vais employer un terme fort, une bulle verte, entre guillemets, et on résout absolument pas le problème du marron.
Il faut plutôt renforcer le rôle de la Banque européenne d'investissement.
Alors, en fait, voilà, Emmanuel Macron le dit bien, il y a la BEI et la BCE. C'est un peu les deux, les deux mamelles.
Et sur la BEI d'abord, peut-être il faut rappeler son rôle. Elle a émis la première obligation climatique responsable au monde en 2008.
Oui, alors la BEI a été une pionnière sur les obligations, environnement et même au-delà, développement durable, on va dire. Mais fondamentalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la BEI finance un certain nombre de projets d'investissement en Europe. Et aujourd'hui, elle finance des projets européens dans le cadre de son mandat, c'est-à-dire des projets verts parfois et parfois des projets marrons. Donc plutôt que de créer une banque européenne du climat, moi ce que j'aurais tendance, c'est peut-être très facile, quand on écoute les promoteurs du projet, évidemment, il suffit que les États membres se mettent d'accord et boum, ça sera créé. Très bien, si les États membres se mettent d'accord sur le fait que le climat est une priorité, j'ai une autre suggestion à leur faire, c'est changer le mandat de la BEI. Les États membres sont les actionnaires de la BEI et mettez explicitement le climat dedans.
Aujourd'hui, c'est 25% de la totalité des investissements de la BEI qui sont consacrés à la lutte contre le changement climatique.
Oui, alors, et encore une fois, là, faut bien prendre en compte, il y a ce qui est climat stricto sensu et puis ce qui est, il faudrait regarder également ce qui est orthogonal à l'atteinte des objectifs climat ou environnement. Donc, je ne sais pas si on peut prendre le chiffre 25% comme parole d'évangile. En tout cas, le vrai sujet là-dedans, c'est vraiment verdir l'action de la BEI. Et on peut, même chose sur la BCE, la BCE aujourd'hui donc, est en charge quand même d'assurer la stabilité financière. Donc, s'il y a des risques financier lié à, au climat ou à l'environnement, la BCE, normalement, devrait le prendre en compte dans son mandat. Normalement. Après, il faut peut-être lui faire une petite piqûre de rappel.
On peut envisager, Jean-Guillaume Péladan, que la BCE ajoute un objectif climatique à sa mission première, qui consiste à assurer la stabilité des prix.
Alors moi, je suis proche du monde des entreprises, toujours très pragmatique, donc j'ai toujours tendance à dire, plutôt que de créer un machin technocratique supplémentaire, pourquoi pas confier cette mission à ceux qui sont en place et qui peuvent agir dès demain matin. Je voulais peut-être souligner un deuxième grand levier qu'a évoqué le président de la République, qui est la fiscalité écologique. Alors, un peu trop souvent résumé à la taxe carbone, malheureusement, c'est un levier qui aujourd'hui est énormément sous-utilisé. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le montant des prélèvements obligatoires, qui sont supérieurs à 50% en France, on n'en a que 4% qui viennent de la fiscalité écologique. On est dans le peloton de queue de l'Europe sur ce ratio, et avec des pays qui sont déjà à 8%, voire plus.
Et en même temps, c'est la fiscalité écologique qui a été le point de départ des grandes manifestations des Gilets jaunes. Donc il y a un coût social aussi de cette fiscalité écologique.
Alors, dans tous ces débats-là, il ne faut pas mélanger tous les sujets. C'est-à-dire que oui, il y a un problème d'inégalité majeur que pose la fiscalité écologique. Et aujourd'hui, il y a des aberrations qui font que les gens sont en colère. Pourquoi aujourd'hui le transport le plus polluant est le moins taxé ? L'avion. Pas de TVA pour les transports internationaux, c'est un résultat de l'histoire. Pas de TIPP, donc de taxes sur les produits pétroliers, sur le kérosène. Donc ça veut dire que la personne qui a les moyens prend un avion plus facilement parce qu'elle a plus d'argent et qu'elle va polluer beaucoup plus que tout le monde. C'est une injustice. C'est vrai que le niveau de fiscalité est assez élevé sur l'essence, mais il y a de quoi être insatisfait. Je voudrais dire qu'il y a beaucoup de produits où il n'y a pas de fiscalité du tout écologique. Et donc, voilà, on a une marge de manœuvre très importante, mais c'est probablement pas sur le diesel et l'essence, c'est sur d'autres sujets.
Hélène Tangeman, sur cette fiscalité écologique qui, comme on le disait, permettrait de faire en sorte que les investissements verts soient plus rentables.
Non, moi, ce qui me semble, pour revenir à ce pacte finance-climat et donc à l'aspect institutionnel de la chose...
Donc proposé par Jean Jouzel,
oui,
et Pierre Laroutou.
Tout à fait. Je suis d'accord avec les deux autres intervenants sur le fait que c'est pas la peine de créer encore une institution en plus, mais simplement de modifier le mandat de la Banque Centrale Européenne et de la BEI, Banque Européenne d'Investissement. Pour ça, c'est tout à fait d'accord, ça me paraît mieux. Mais la deuxième proposition de ce pacte finance-climat, c'est de lutter contre le dumping fiscal en proposant une taxe de 5% sur le bénéfice des entreprises. Et donc je pense que c'est aussi, ça va dans le bon sens, mais à mon sens il faut aller quand même beaucoup plus loin et agir sur au moins trois leviers. Premièrement, lutter contre l'évasion fiscale, parce qu'on a besoin de sous pour financer la transition. Mais aujourd'hui, les estimations de l'évasion fiscale de la part des grandes entreprises en Europe, selon les estimations, ça varie entre 200 milliards et 1000 milliards d'euros par an. C'est énorme. Donc mettons 500 milliards en fourchette basse.
On n'a pas l'impression qu'il y a une volonté politique très importante. Il faudrait que des paradis fiscaux
sont
au sein même de l'Union européenne.
Voilà. Et donc là, il n'y a rien qui est fait. Deuxièmement, on peut verdir la finance, mais elle restera toujours aussi instable tant qu'on ne change pas fondamentalement sa structure. Et la dernière crise nous l'a montré, mais on n'en a pas tiré les leçons. Donc il faut vraiment changer drastiquement les structures de la finance, en recloisonnant les activités, limitant, voire interdisant l'effet de levier, c'est-à-dire le fait de pouvoir spéculer en empruntant 95% de la somme et en mettant que 5% au pot. J'ai encore plein de propositions, mais je vais aller vite. Et dernière chose très importante et qu'on oublie tout le temps, réduire les inégalités de revenus. Parce que une des sources de la spéculation financière vient du fait qu'il y a d'énormes montants qui cherchent à se placer avantageusement. D'où viennent ces montants? Des profits des grandes entreprises et des 0,0001 les plus riches. Je vous rappelle qu'il y a encore deux mois, Oxfam a sorti encore un rapport en disant que 26 personnes possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité.
Donc, alors la question des inégalités est un très vaste sujet.
Oui, sur lequel... non, mais ça veut dire que si on veut limiter la spéculation, il faut... changer les structures de la finance, il faut agir sur les inégalités, puisque la source de la spéculation vient de ces montants absolument énormes de profits qui sont faits par un tout petit nombre. Et donc, ça aura en plus, évidemment, des conséquences positives en termes politiques, etc.
Merci beaucoup à tous les trois. C'est déjà la fin de cette discussion. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui, à Benoît Le Guay, Hélène Torgeman et Jean-Guillaume Péladan. Je rappelle votre livre, Jean-Guillaume Péladan, Sur quelle planète vont grandir nos enfants, paru aux éditions Ovadia. Il est 14h44 sur France Culture et c'est l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Et comme chaque semaine, on vous propose un ouvrage qui a marqué la pensée économique ou les sciences sociales. Aujourd'hui, c'est La loi de l'entropie et le problème économique de Nicolas Georgescu-Rogen qui a attiré notre attention. Bonjour Antoine Mismer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, chargé de recherche au CNRS et auteur de cet ouvrage, Nicolas Georgescu-Rogen, pour une révolution bioéconomique, paru aux éditions de l'ENS. Alors d'abord, qui était Nicolas Georgescu-Rogen, cette figure tutélaire du courant de la décroissance ?
Alors Georgescu-Rogen est d'origine roumaine, donc c'était un mathématicien de formation. Il est venu à l'économie dans les années 30 et il a fait la plus grande partie de sa carrière aux États-Unis. Donc dans les années 30, il rencontre Schumpeter, donc le grand théoricien de la destruction créatrice. Et puis après un petit retour en Roumanie dans les années 40, il revient aux États-Unis dans les années 50, où là il va à Nashville, donc dans une toute autre université, où il va faire l'ensemble de sa carrière. En travaillant, au début de sa carrière, il avait travaillé sur des sujets ordinaires de l'économie, la théorie du consommateur ou d'autres sujets comme cela. Puis il est venu aux questions de développement, aux questions d'économie agraire et aux questions de ressources naturelles au tournant des années 70. Sa carrière est assez longue parce qu'il est décédé au milieu des années 90 et a continué d'écrire presque jusque-là. Donc souvent, c'est un personnage qui s'est marginalisé au fur et à mesure de sa carrière. Il a une part de responsabilité pour ça. Le contexte institutionnel et de la discipline économique a aussi sa part de responsabilité.
C'est pour ça qu'il a raté le prix Nobel, par exemple. Il était un temps pressenti.
Certains vont dans ce sens-là.
Et alors, pour Georgescu, c'est la biologie évolutionniste de Darwin qui peut le mieux expliquer l'économie. En quoi l'économie a-t-elle des traits biologiques, selon lui ?
Alors oui, il y a en effet deux disciplines qui sont très importantes pour lui. La biologie évolutionniste d'un côté, la thermodynamique de l'autre côté. Alors pour la biologie évolutionniste, l'idée principale, c'est en s'inspirant d'un autre biologiste et statisticien, Alfred Lotka, Georgescu-Rogen explique que le processus économique, la production de biens et services, est en réalité une extension de l'évolution biologique. Pendant des millénaires, les êtres humains se sont développés comme d'autres espèces avec des mutations génétiques qui ont changé leurs organes, leurs membres. Et puis, au bout d'un moment de l'évolution, c'est ce qu'il appelle des instruments exosomatiques, donc des membres extérieurs à lui-même, typiquement des outils, qui l'ont aidé à agir sur le monde. Et donc, la production d'outils, c'est ce qu'étudie l'économie. Donc, l'économie, en ce sens-là, est un prolongement de l'évolution biologique.
Et c'est en cela qu'il critique l'économie orthodoxe qui s'inspire de la mécanique classique conçue pour des phénomènes atemporels. Alors lui, ce qu'il dit, c'est que l'économie, c'est une science de la vie.
D'une certaine façon, c'est ça. En tout cas, sa critique du paradigme néoclassique, qu'il dit extrêmement mécaniste, s'inspire à la fois de cette dimension biologique et puis de la dimension thermodynamique que j'évoquais, c'est-à-dire la physique de la chaleur, qui se développe au XIXe siècle, donc après la mécanique newtonienne, bien après, qui a mis à jour tout le corpus de la physique, mais que les économistes ont tendance à négliger. Et donc ce que dit Georgescu-Rogen, c'est qu'il faut tenir compte à la fois des éléments de biologie et des éléments de thermodynamique. En thermodynamique, il y a deux principes fondamentaux que reprend Georgescu-Rogen. Le premier principe, c'est un principe de conservation de l'énergie. Dans un système donné qui n'échange pas d'énergie ou de matière avec l'extérieur, la quantité d'énergie totale est fixe. Et le deuxième principe, c'est la loi de l'entropie, donc qui est important puisque ça apparaît dans le titre de l'ouvrage que nous discutons aujourd'hui. Ce deuxième principe stipule que dans ce même système, qui n'échange rien avec son environnement, l'énergie disponible a tendance à se dégrader irrémédiablement. c'est-à-dire l'entropie, qu'est-ce que c'est ? C'est la mesure de cette dégradation.
Et pour prendre un exemple très concret, pour bien comprendre ce concept d'entropie, on peut prendre l'exemple du tube de dentifrice.
Alors oui, alors c'est très approximatif parce que le dentifrice, ce n'est pas de l'énergie. Donc les physiciens tomberaient peut-être de leur chaise, mais c'est assez parlant. C'est l'idée que lorsque vous vous brossez les dents, vous ne retrouvez absolument pas le dentifrice dans l'état qu'il était quand il était dans le tube avant de l'utiliser. Et ce changement d'état, bien sûr, est irréversible. Je vous souhaite bon courage si vous souhaitez remettre le dentifrice dans le tube.
Et c'est pour cela qu'il écrit, je le cite, « Pendant longtemps, les économistes ont aimé dire que rien ne pouvait s'obtenir gratuitement, mais la loi de l'entropie est plus sévère que cela. Non seulement rien n'est gratuit par rapport à l'environnement, mais en plus, tout coûte toujours plus cher qu'il ne vaut. »
Tout à fait. Parce qu'il y a cette maxime de l'économie qui dit qu'il n'y a jamais de déjeuner gratuit. Et donc, ce qu'explique Georges Scourgen, c'est que c'est pire que cela. Non seulement tout coûte, mais en plus, tout coûte toujours plus que ce que l'on peut obtenir.
Et alors, qu'est-ce que cela veut dire, tout coûte toujours plus que ce que l'on peut obtenir ?
C'est cette idée que la loi de l'entropie, par son caractère totalement irrémédiable, quelles que soient nos actions, nous ne pouvons pas la contourner. Cette loi, bien sûr, je le disais tout à l'heure, elle est valable dans un système qu'on dit clos, qui n'échange rien avec l'extérieur. On peut imaginer que notre système Terre, par exemple, est alimenté par l'énergie du soleil, qui est une source d'énergie qui vient de l'extérieur. Mais ce qu'explique Georges Scourgen, c'est que dans nos sociétés industrielles, tout notre régime énergétique repose sur des énergies fossiles, qui, elles, ne viennent pas de l'extérieur. C'est un stock limité que nous avons à notre disposition. Et donc, en dépendant uniquement de ce stock fini, eh bien, on accélère l'entropie de notre système. Et donc, à chaque fois qu'on crée une action qui est censée nous produire un bien économique, en réalité, on le fait au prix d'éventuelles productions de biens économiques futures, puisque notre stock total d'énergie est fini.
Ce qu'il faut dire, Antoine Missmer, c'est que l'ouvrage de Georges Scourgen qui nous occupe aujourd'hui a été publié en 1971, et c'est un moment où les sociétés développées commencent à prendre conscience de leur dépendance aux hydrocarbures et des limites de leur modèle de croissance.
Tout à fait, l'ouvrage est publié dans un contexte où ce n'est pas le seul ouvrage sur ces thématiques qui surgit. C'est l'époque où le Club de Rome travaille sur le rapport Meadows, qui sera publié sur les limites de la croissance en 1972. C'est une époque aussi où les préoccupations écologiques environnementales, notamment dans le monde anglo-saxon, sont de plus en plus importantes. En revanche, l'ouvrage de Georges Scourgen a cette spécificité d'être extrêmement ambitieux dans ce qu'il propose non seulement pour la théorie économique, pour refonder un paradigme, et ce qu'il propose pour les politiques publiques et les comportements économiques des citoyens en tant que consommateurs, producteurs de richesses.
Alors avant d'en venir à ces propositions, ce qu'il faut expliquer peut-être, Antoine Missmer, c'est que ce n'est que dans les années 70 que les ressources naturelles sont à nouveau considérées comme des facteurs de production, tout comme le travail et le capital. Qu'est-ce que cela implique ?
Ce que dit Georges Scourgen dans ce contexte-là, c'est que non, les ressources naturelles ne sont pas accessoires. Elles ont un statut de facteur originel, parce que si vous n'avez pas de denrées alimentaires, par exemple, vous ne pouvez pas renouveler le travail. Et si vous n'avez pas de matières premières, vous ne pouvez pas construire de machines. Donc, sans ressources naturelles, rien ne se produit.
Et c'est dans ce contexte qu'il invente ce qu'il appelle la bioéconomie. Son but, c'est de réconcilier activité économique et contraintes environnementales.
Oui. Ça, c'est l'objectif général avec un projet qui fait système globalement. C'est-à-dire le projet bioéconomique, c'est un projet sur des fondations épistémologiques par rapport aux disciplines scientifiques, la biologie, la thermodynamique dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, c'est aussi des propositions de théorie économique, parfois très techniques, difficiles à percevoir. Et puis, c'est enfin un troisième étage qui sont un ensemble de propositions pratiques. Par exemple, il parlait de programmes bioéconomiques avec des mesures de politique publique, des mesures éthiques, des mesures techniques aussi.
Un programme qui passe par le fait notamment de diminuer la population.
Alors c'est l'idée que seule une agriculture biologique est soutenable à long terme, si je le traduis en termes contemporains, et donc compte tenu des surfaces agricoles utiles que l'on a actuellement au niveau planétaire, et du niveau des rendements de l'agriculture biologique, il est probable qu'on ait une limite à la population totale. Alors quel est le niveau exact de cette population totale ? Est-ce que c'est inférieur à la situation actuelle ? Est-ce que c'est supérieur à la situation actuelle ? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est toujours cette question des limites qui survient.
Lui ne se prononce pas sur cette question.
Il donne l'expression mathématique de la limite, mais il ne chiffre pas jusqu'à dire de façon irrémédiable.
Vous parliez de ces propositions techniques et aussi de ces propositions éthiques. Il faut, écrit-il, se rééduquer de façon à ressentir quelques sympathies pour les êtres humains futurs, de la même façon que nous sommes intéressés au bien-être de nos voisins contemporains. C'est en cela qu'il est extrêmement moderne, Antoine Missmer.
Cette question, c'est la solidarité intergénérationnelle qui est posée à ce moment-là et qui est un peu un pavé dans la mare des économistes également. Parce que lorsque les économistes parlent de dynamique à l'époque, où ils sont censés considérer des générations les unes après les autres, ils le fondent face avec des hypothèses si restrictives que ça a un sens mathématique, mais ça n'a pas forcément de sens si on parle en termes d'éthique intergénérationnelle. En revanche, lui pose la question clairement, dans un contexte où la loi de l'entropie s'applique, il y a forcément des choix à faire entre l'énergie qu'on peut utiliser aujourd'hui et celle qu'on pourra utiliser demain.
Et en même temps, il ne croyait pas au développement durable, qu'il qualifiait de faux remède ou de poudre de perlimpinpin. Pour quelle raison?
Alors il s'est rapidement rendu compte, je vous disais qu'il avait écrit jusqu'à la fin de sa vie, au début des années 90, donc la notion de développement durable à ce moment-là est déjà sur la table. Il s'est rapidement rendu compte que le terme de développement durable pouvait être facilement dévoyé. La croissance verte ou des mesures uniquement technologiques qui ne prenaient pas en compte les aspects éthiques de politique publique que j'ai évoqués tout à l'heure.
Oui, pour lui, le progrès technique ne peut pas intégralement résoudre cette question environnementale.
Non, le progrès technique est une partie de la solution, mais qui ne fait sens que s'il est extrêmement exigeant, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas, par exemple, des terres rares, et s'il est accompagné des autres types de mesures. Et donc, il était sensible à ce dévoiement possible de la notion de développement durable.
Je le disais en introduction, on en a fait une figure des différents mouvements de la décroissance. Pourtant, ce terme de décroissance n'apparaît jamais dans son œuvre. Alors comment, a posteriori, a-t-on fait de lui ce père de la décroissance?
La filiation entre Georgescu Rogan et la décroissance se fait de façon différente entre le monde anglo-saxon et le monde francophone, c'est-à-dire que le terme décroissance en français apparaît plus tôt que le terme degrowth, son équivalent en anglais, parce que dès 1979, Jacques Greenwald et Ivo Rens ont proposé la traduction de plusieurs textes de Georgescu Rogan en français. Ce livre existe, est toujours disponible, il s'intitule La décroissance, en utilisant ce terme. Et Georgescu Rogan était a priori tout à fait d'accord avec l'utilisation de ce terme, qui montrait en tout cas la radicalité de ses propositions.
Mais lui, il parle de decline, pas de degrowth.
Mais voilà, mais lui, dans ses écrits en anglais, jamais apparaît le terme de degrowth. Il parle plutôt de decline parce que mon interprétation, elle n'est pas forcément partagée par tous, mais mon interprétation, c'est que lui insistait beaucoup sur le changement qualitatif. Et à l'époque où il écrit, la notion de décroissance renvoie beaucoup à l'augmentation ou la baisse de mesures économiques, d'agrégats économiques comme le PIB, mais sans forcément aller jusqu'au bout du changement qualitatif dans nos modes de vie, dans nos modes de produire, dans nos modes de consommer.
Un dernier mot, Antoine Missmer, sur l'héritage de la pensée de Georgescu Rogan. Que nous a-t-il laissé? Quel est aujourd'hui l'héritage de sa pensée?
Alors, sur l'ensemble de ses propositions bioéconomiques, ce sont essentiellement les courants de la décroissance qui se réapproprient un certain nombre de ses propositions. On remarquera aussi que certaines de ses prises de position, que ce soit sur l'agriculture biologique, que ce soit sur la promotion des énergies renouvelables, font plus écho à des propositions qui sont devenues presque classiques dans le débat public, parce qu'on a 50 ans d'évolution technologique et institutionnelle derrière nous, depuis le moment où il a écrit. En revanche, ce qu'il lègue, je pense, et ce qui fait que le lire est toujours extrêmement utile, c'est qu'il pose énormément de questions de recherche, qu'il pose beaucoup de questions aussi aux citoyens qui, tous les jours, consomment, produisent, distribuent des richesses. Et ce qu'il met en évidence, c'est qu'on ne peut pas penser la transition écologique sans s'interroger aussi sur nos représentations du monde, sur les rapports entre l'homme et la nature, et que de ce point de vue-là, même si certains pans de sa pensée méritent mise à jour et sont critiquables, le lire me semble tout à fait pertinent encore aujourd'hui.
Merci beaucoup Antoine Missmer de nous avoir éclairé sur cette œuvre phare de Nicolas Georgescu Rogan. Je renvoie les auditeurs à votre livre Nicolas Georgescu Rogan pour une révolution bioéconomique paru aux éditions de l'ENS. Un grand merci. And if I should do such a thing, then you'll know. on se quitte avec Romance Without Finance des Temptations. Et la semaine prochaine, on vous emmène dans les îles pour parler d'économie insulaire, de la Polynésie à Taïwan en passant par les Caraïbes. En attendant, vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et sur vos applications de podcast. Excellent week-end et à lundi.